Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Alors cette semaine, j'accueille Michel. Michel comment ?
Nodo.
Nodo. Quel signe ?
Bélier.
Un bélier. Je suis envahi de béliers. Quelle année ?
54.
Un jeune homme. Retraité ?
Oui.
Actif ?
Retraité actif, oui.
Ah, j'adore cette définition. Retraité actif, en plein dans le combat des retraites, je trouve ça exceptionnel. Bon, allez, la vie de pirate.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh is, oh is, oh eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate.
Alors moi, j'ai découvert Michel lors d'une réunion et j'ai compris que cet homme passionné de l'Alsace avait œuvré vis-à-vis de ce référendum de 2013. Et il a un historique et une histoire assez, je dirais, surprenante, où on peut dire que l'Alsacien, c'est un Hans Schnogelor. Et il va nous le décrire pourquoi et il va nous le définir. Alors, comment commence cette aventure, Michel ?
Eh bien, ça commence quand j'étais au Conseil économique et social d'Alsace. En 2002, pour la énième fois, le Conseil économique et social d'Alsace prévoit d'émettre un avis où il propose la fusion des agences de développement de la région et des deux départements. Et à ce moment-là, je suis à mon bureau et je me dis, mais pourquoi ne pas carrément fusionner les trois collectivités, c'est-à-dire la région Alsace, le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin. Et donc j'ai rédigé un amendement à l'avis qui était en préparation au Conseil économique et social, et l'aventure a commencé de cette façon-là.
Donc tu as été, je dirais, chef de groupe, comment on peut appeler
Alors, pas tout de suite. Hein. D'abord, l'amendement, j'explique ça largement dans mon livre. Mais,
qui s'appelle ?
L'Alsace malgré elle.
Et pas malgré nous.
Non.
On rectifie tout de suite.
Malgré elle. Voilà. Et donc, ça a mis quand même 3 ans à accoucher d'une commission qui finalement avait pour mission de travailler sur ce sujet, c'est-à-dire la fusion de la région Alsace, à l'époque où elle existait encore, avec les deux départements.
Et dans ta boule de cristal, parce que tu as anticipé le résultat, qu'est-ce qui t'a fait penser que ce résultat allait arriver ?
Quel résultat ?
De ce vote.
Le référendum.
Non, oui.
Oui, mais alors, il y a d'abord eu l'avis. Non, moi, je pensais au contraire qu'on allait gagner. Enfin, je veux dire que ce vote, que le résultat serait positif. On a d'abord fait cet avis du CESA qui prenait la fusion en 2007, et puis ensuite, il s'est écoulé encore une fois 6 ans avant qu'on arrive au référendum. Et au moment du référendum, moi, je pensais que le oui était quasiment assuré. Je ne me rendais pas compte de la façon dont les politiques avaient amené le sujet, et surtout de la façon dont ils avaient présenté le sujet aux Alsaciens.
Parce que tous les politiques étaient quasiment pour.
Non.
Non.
Ah non, bah non. Il y a eu des élus comme par exemple le président du Conseil général du Haut-Rhin, Charles Büttner à l'époque, qui était contre. Et surtout, il y a eu aussi Gilbert Meyer, le maire de Colmar, qui était vent debout, que j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, contre ce projet. Il y a eu Et les socialistes, à l'époque, n'ont eu aucune consigne de la rue de Solferino. Ils étaient divisés, hein, il y avait des pour et il y avait des contre. Et il y avait aussi beaucoup de gens, dont le maire de Strasbourg à l'époque, Roland Ries, qui ne se sont pas prononcés.
Alors tu expliques, toi, quelle est ton explication à toi à ce refus et que ce référendum a tourné un peu négatif?
Ça n'a tout simplement pas intéressé les Alsaciens. C'est-à-dire que, autant dans les milieux administratifs et politiques, le sujet intéressait, était débattu, mais autant le passage et l'explication aux Alsaciens n'a absolument pas eu lieu. La campagne du référendum a été conçue comme une campagne normale, c'est-à-dire pour l'élection d'un député ou d'un conseiller général, alors qu'il s'agissait d'un sujet extrêmement complexe, d'un sujet institutionnel, qui n'est pas forcément un thème qui intéresse les gens. Hein. Je veux dire, quand on commence à leur parler compétences des différentes collectivités, quelles sont les compétences d'une région, quelles sont les compétences d'un département, pourquoi est-ce qu'il faut fusionner, qu'est-ce qui ne va pas, etc. C'est très compliqué, et si on leur explique pas quelle est la plus-value pour eux de tout ce travail, ils ne se déplacent pas, c'est ce qui s'est passé.
Est-ce que tu penses que la querelle connue et ancestrale du Barinois par rapport à l'Orinois a joué?
Oui, absolument. Elle a joué. Et je me rappelle quand on travaillait ce sujet-là, à l'époque c'était Adrien Zeller qui était président de la région, et on le rencontrait souvent, enfin le petit groupe que nous étions qui pilotait la commission, et lui était opposé à la fusion de la région avec les deux départements. Il préférait la contractualisation, ce qui est aussi quelque chose de compliqué. Et surtout, il disait, c'est le problème vient de l'État, parce qu'il y a beaucoup de doublons entre les gens qui sont employés par les compétences, si vous voulez, de la région et des départements, et avec les missions de l'État en région. Et Zeller nous disait, et de toute façon, vous faites pas d'illusions, les Orinois seront jamais d'accord. Et il avait raison. Bon, il y a eu des grands élus qui ont fait le nécessaire pour que ce soit le cas. Mais moi, je n'imaginais pas à ce moment-là que ça puisse se produire.
Impossible. Alors, je vois, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'avec la région Grand Est, bon, il y a à nouveau un courant pour que l'Alsace sorte du Grand Est, mais est-ce que le Grand Est, pour toi, a apporté quelque chose?
Non. Non, strictement rien.
Rien.
Non. Il y a peut-être un seul domaine où le Grand Est peut avoir un rôle positif, c'est peut-être dans le domaine agricole. Mais sinon, dans tout le reste, je ne vois pas ce que ça a apporté, puisqu'il y a un éloignement considérable entre le local, c'était parce que c'est ça qui nous intéresse, et l'endroit où les décisions sont prises. Par exemple, quand on sait que les transports scolaires sont gérés par la région, franchement, je ne vois pas très bien quel peut être l'apport positif de prendre une décision à des centaines de kilomètres de là où ça doit s'appliquer. Quoi.
Comme les lycées et les collèges.
Oui, comme les lycées et les collèges, ouais, tout à fait. Enfin, les collèges restent encore une compétence des départements, donc de la CEA aujourd'hui. Oui. Alors que les lycées, oui, sont gérés par la région. Et il y a aussi des lycées qui sont collèges et lycées, des établissements qui vont de la 6e jusqu'à la terminale. Là. Donc gérés par les deux.
Et le pire pour un chemin de croix, c'est pour la culture. Si on a un dossier de subvention, ouais. Là, on est dans un méandre.
Oui, il y a un parcours du combattant.
On ne sait pas à qui adresser.
Ouais.
Parce qu'on se le renvoie. Là, le ping-pong, c'est rien. Là, ils jouent à la table ronde et ils sont tous là-bas avec des raquettes.
Tous les dossiers de subvention. Hein. Je veux dire, vous avez besoin d'une subvention communale, d'une subvention de la région, d'une subvention de la CEA, de l'État, voire de l'Europe. Donc tout ça, c'est extrêmement complexe.
Dans ton livre, j'ai senti, parce que ton livre est très bien fait, alors je ne vais pas dire, j'ose lire un livre de témoignage.
Oui, c'est un témoignage, oui.
Oui, mais je dirais plus aussi une chronologie aussi, il y a une chronologie quand on avance, un témoignage chronologie. Et on sent, du début du livre, une certaine passion, un enflammement, mais à la fin, on sent une forme, je vais employer le mot, désillusion, une forme de... C'est amer quand même.
Non, c'est pas amer, j'en veux à personne, hein, je veux dire, on a fait notre boulot, et c'est ça, moi ça me suffit, hein, je dors tranquille la nuit, j'estime que j'ai fait ce qu'il fallait faire, et puis tous ceux qui ont travaillé avec moi aussi, On a œuvré pour l'Alsace, et j'ai absolument aucun regret de ça. Bon, évidemment, on peut avoir le regret que le référendum n'ait pas passé, mais ça fait partie de l'histoire, après.
Alors, avant de reparler du faux référendum qui a eu lieu, qui est en lieu, qu'on a voté là dernièrement, hein, il y en a eu un là dernièrement, on va écouter un de tes titres que tu as choisi.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie ne sait pas ceux qui s'aiment.
C'est pas l'interprète que tu souhaitais?
Ah, moi je la préfère avec Yves Montand.
Yves Montand, ouais. Ouais. Mais bon, elle a une pointe de jeunesse.
Oui, oui, tout à fait. Voilà.
Peut-être qu'il mettra vite un petit son de Yves Montand, des feuilles mortes. On verra la comparaison. Mais je continue. Il y a alors, c'est une consultation qu'il y a eu dernièrement.
Oui.
Organisée par
la CEA, par Frédéric Biry. Une consultation, bon, c'est pas... Cette consultation, donc, c'était l'an passé. C'était début, je crois que c'était fin 2021, début 2022, si je me souviens bien. C'était pas un sondage, enfin, sa valeur de sondage grandeur nature, on peut dire. Donc, puisque les gens votaient, on leur demandait s'ils étaient favorables à la sortie de l'Alsace du Grand Est. Et puis, ils répondaient par oui ou par non, quoi, en votant dans des urnes qui étaient répartis un petit peu partout en Alsace. Et les résultats, effectivement, ont été... ça a été un plébiscite. Mmh. Je crois qu'il y a eu 92% sur 150 000 ou 140 000 suffrages exprimés, il y a eu 92% de oui.
Et quelle est la conséquence d'une telle consultation?
Disons que, pardon, ça conforte, entre guillemets, les partisans de la sortie du Grand Est. Mais de mon point de vue, ça n'apporte pas grand-chose, parce que c'est pas probant. C'est ni plus ni moins qu'un sondage. Il faut rappeler quand même que en 2013, quelques jours avant, et depuis 2011, tous les sondages entre 2011 et 2013, où on demandait aux gens s'ils étaient favorables à la fusion de la région des deux départements, on était à 75% de oui. Et là, on est exactement dans la même situation. Hein. Je veux dire, tous les sondages qu'on a depuis quelques années, c'est le même pourcentage, à peu près stable. Et là, on est donc dans la droite ligne de ces sondages-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça au moment du référendum, parce qu'il y a eu une campagne. Et dans une campagne, il y a des oppositions. Les oppositions qui expliquent, etc. Il y a un débat. Et il faut convaincre. Et dans un sondage, vous n'essayez pas de convaincre, hein. Vous répondez par oui ou par non, vous posez une question, on dit oui ou non, point. Donc on ne peut pas comparer ça à une campagne électorale.
Alors est-ce qu'il y a un sentiment, pourquoi il y a eu ce plébiscite dans cette consultation, de perte d'identité de l'Alsace, et que ça a fait réagir certains votants par rapport au noyade d'être noyé dans le Grand Est?
Ben, écoutez, encore une fois, poser la question aux gens, voulez-vous sortir du Grand Est ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'expliquer aux gens pourquoi il faut sortir du Grand Est qu'à l'époque, de leur expliquer pourquoi il fallait fusionner la région Alsace avec les deux départements.
Alors, je pose la question, pourquoi, Michel, faut-il sortir du Grand Est?
Ah ben, il faut sortir du Grand Est, si c'est possible. Il faut sortir du Grand Est pour une question d'efficacité des politiques publiques. Voilà. Et Berry avait parfaitement raison de dire dernièrement que ça n'était pas une question identitaire. C'est pas une question identitaire. Alors, c'est délicat de dire ça, particulièrement par rapport à des mouvements ou des partis comme Unserland, parce que leur démarche à eux, c'est une démarche identitaire. Hein. Il y en a beaucoup dans ces 92% de oui qui sont dans une démarche identitaire. Et d'ailleurs, sans Unserland et l'appui de Unserland, le résultat de cette consultation n'aurait pas été le même, hein, puisque c'est eux, en grande partie, qui ont porté à bout de bras cette consultation et qui étaient sur le terrain pour organiser les votes, etc. Et eux sont dans une démarche identitaire. Alors que Berry, et il a mille fois raison, est dans une démarche d'efficacité des politiques publiques. Parce que c'est ça le vrai message. Sauf que, il faut l'expliquer aux gens.
Alors, moi qui suis novice, je pense qu'on a plus de force avec le Grand Est pour des politiques, des trucs publics, que la région Alsace, qui a été toujours considérée comme une région riche, plus ou moins.
Oui, on est une région riche, hein, je veux dire, on était une région riche, toujours, et on est d'un grand apport au Grand Est. Mais en termes d'efficacité des politiques publiques, ce serait beaucoup plus simple si on avait pour les Alsaciens, si on avait une collectivité unique autrement dit, si la CEA d'aujourd'hui, qui n'est rien d'autre qu'un département, un super département avec quelques compétences en plus, c'est ce qu'on appelle un département à statut particulier. Bon, c'est quelque chose qui n'existe pas d'ailleurs dans la nomenclature juridique, c'est le seul exemple. La CEA, c'est un département avec un statut particulier. Si on lui adjoignait les compétences de la région, d'une région, ça deviendrait une collectivité à statut particulier. Ça, c'est défini par l'article 72 de la Constitution, et ça donne beaucoup plus de pouvoir et de capacité aux élus qui dirigerait cette collectivité que ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les compétences sont divisées entre la région et la CEA.
Alors on va voir si la régie a pu sauver les feuilles mortes de Yves Montand. On ne sait jamais, autrement c'est ton deuxième titre. Mais ils sont brillants à la régie, ils sont des gens extraordinaires.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
je vois que tu as le sourire.
Oui, ouais, parce que ça, c'est une version extraordinaire.
Ça te rappelle des souvenirs, ça?
Non, pas particulièrement, mais je me rappelle que quand je l'ai entendu pour la première fois, enfin, chanter pas. Je crois que ça, c'est son dernier passage à l'Olympia. Et c'est vraiment, je trouve...
C'est merveilleux. Ouais. Tu vois, c'est puissant. Alors, le CEA, aujourd'hui, tu penses qu'il est efficace dans le Grand Est? C'est une référence? C'est une voix qu'on entend?
Bon, c'est une voix qu'on entend, hein, ça c'est sûr, puisque, je veux dire, il réclame à corps et à cri de sortir du Grand Est, donc il est entendu en Alsace, elle est entendue en Alsace et dans le Grand Est. Moi, je pense que c'est une collectivité qui tient la route. Hein, je veux dire, elle a donc des compétences. Ils ont fusionné donc le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ils ont les compétences départementales plus deux ou trois autres compétences. Mais on va dire dans le cadre du Grand Est, je pense que c'est plutôt une épine dans le pied du Grand Est qu'autre chose.
C'est une épine.
Ouais. Ouais. Parce qu'il peut y avoir, bon maintenant en plus, il faut pas oublier une chose, c'est que ce sont les Alsaciens qui ont fait le Grand Est. Les Alsaciens.
Ah bon?
Ben oui, parce que quand le Grand Est a été créé par le gouvernement donc de François Hollande, qui est-ce qui était à la manœuvre pour... Et il n'avait pas le choix, je veux dire, il fallait bien... C'est la loi hein, qui a imposé, le législateur, qui a imposé les grandes régions, dont la région Grand Est. Et à l'époque, les équipes en place autour de Philippe Richert, c'était des Alsaciens. C'est donc eux qui ont mis tout ça
en action
et qui ont tout conçu. Hein, voilà. Donc il y a un certain paradoxe, si vous voulez, aujourd'hui, à voir des Alsaciens qui veulent sortir du Grand Est, alors que ce sont les Alsaciens qui ont fait le Grand Est.
Et quel est dans le Grand Est aujourd'hui, parce qu'on a perdu la présidence?
Oui, en plus. C'est pour ça que je dis maintenant, c'est encore plus une épine dans le pied, parce qu'il n'y a plus d'Alsaciens. On a eu deux présidents alsaciens, les deux premiers, qui sont d'ailleurs partis tous les deux en cours de mandat, ce qui pose question. Maintenant, il n'y en a plus, et le successeur de Rottner n'a pas l'air de vouloir entendre le discours et les demandes des Alsaciens et des élus alsaciens en particulier. Donc c'est quand même assez... C'est pour ça que je dis que c'est encore plus une épine dans le pied qu'avant.
Et on sent... Pour toi, cette grande région ne tombe pas dans le régionalisme des combats quand même. C'est pas les Mosellans et
contre...
Non.
Ben non, parce
c'est
que...
limé ça.
Oui, absolument. Non, mais je veux dire, on a regroupé la Champagne avec l'Alsace, la Lorraine et je veux dire. À leur corps défendant. Hein. Bon, maintenant que il y a aucune raison qu'il y ait une opposition entre les Lorrains, les Alsaciens et les Champardonnais, je veux dire, ce serait complètement idiot. En tout cas, c'est parce que c'est pas une question identitaire, encore une fois.
Hein. C'est une question économique.
Ouais.
Et l'État est gagnant?
Alors l'État, à mon avis, non. Parce que l'État aurait mieux fait de faire d'achever une décentralisation que moi j'appelle asymétrique, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir des régions ou des collectivités qui aient toutes le même, qui soient toutes sur le même modèle. Hein. Elles peuvent avoir des compétences différentes, plus ou moins de pouvoir, etc. Ça dépend de l'histoire.
Alors le temps file, on arrive à la fin. Si toi tu avais un vœu pour la grande région ou pour cette grande Alsace, c'est lequel? Qu'est-ce que serait si la hôte du Père Noël passait et que tu aurais pu?
Alors moi mon vœu, c'est très simple, ce serait que enfin, ceux qui font la promotion de la sortie du Grand Est expliquent aux Alsaciens pourquoi et comment on doit sortir du Grand Est. Leur expliquer quelle est pour eux la plus-value de sortir du Grand Est. Et ça, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Parce que c'est un très long et très lent travail qui ne se passe pas en quelques semaines de campagne. Il faut aller sur le terrain, il faut créer des ateliers, des groupes de travail, réunir les gens, faire des remontées, des synthèses, etc., avec des animateurs, avec des fiches thématiques. Enfin voilà, c'est tout un travail qui, pour l'instant, n'est absolument pas fait.
Et ben voilà, une belle proposition. Voilà. Merci Michel de ton passage.
Il n'y a pas de quoi.
J'espère que ça t'a plu.
Très bien, merci.
Merci.
Les flots.